l'actu des oubliés. Saison 5. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Cette semaine, nous nous rendons en Kanaky, ou Nouvelle-Calédonie, terre sous domination française, considérée par l'ONU comme l'un des 17 territoires non décolonisés que compte encore la planète.
J'ai un petit message à faire passer à tous ceux qui nous diabolisent, qui nous criminalisent, qui crachent sur notre drapeau et notre identité.
Le 20 août, l'ONU s'alarme, je cite, de la situation du peuple autochtone Kanak dans le territoire non autonome de Nouvelle-Calédonie. Quatre experts chargés du droit des peuples autochtones, du racisme contemporain et des droits à la réunion pacifique et à la liberté d'expression dressent un constat accablant.
Nous sommes très préoccupés par l'absence de dialogue, l'usage excessif de la force, le déploiement continu des forces militaires et les rapports de violation des droits de l'homme qui ont ciblé des milliers d'autochtones Kanak. Le manque de retenue dans l'usage de la force contre les manifestants Kanak et le traitement exclusivement répressif et judiciaire d'un conflit dont l'objet est la revendication par un peuple autochtone de son droit à l'autodétermination est non seulement antidémocratique, mais profondément inquiétant pour l'état de droit.
La France envahit la Kanaky en 1853. Sur place, elle s'arroge les terres et met en place des bagnes où sont envoyées des personnes jugées indésirables en métropole. Victime d'épidémies et de massacres, le peuple Kanak résiste, mais il ne peut éviter d'être parqué dans des réserves à la fin du 19e siècle, alors que la Nouvelle-Calédonie devient colonie de peuplement. Nommée opération du Grand Cantonnement, ces déplacements de population obligent les Kanaks à se contenter de 13% du territoire, alors qu'ils et elles sont encore largement majoritaires dans l'archipel. Ce n'est qu'en 1958 que la population Kanak passe sous les 50%, après une nouvelle vague de colonisation due à l'exploitation du nickel. On écoute Mina Kerfi, représentante en France de l'Union syndicale des travailleurs Kanak et des exploités.
Déjà 30 ans après la prise de possession qui a eu lieu en 1853, il ne restait que 10% de la population Kanak à cause des maladies, de la spoliation des terres, des guerres aussi, parce qu'ils se sont toujours battus contre cette prise de possession. C'est un peuple qui a failli s'éteindre hein, malgré tout.
Je m'adresse à ceux qui nous accusent et nous condamnent, ceux qui nous dénigrent. Vous êtes arrivés hier. Peuple Kanak, nous sommes là depuis 3 millénaires. Alors libérez nos frères, libérez nos sœurs, libérez mon peuple et que la France se tire ailleurs. Libérez nos terres et remballez votre justice. Elle est biaisée et coloniale, elle est révélatrice.
Petit à petit, le peuple Kanak est devenu minoritaire sur sa propre terre. Les Kanaks ont été refoulés sur les terres plus arides, des terres beaucoup plus difficiles. Et les colons se sont installés sur les grandes plaines, terres agricoles. Ils ont toujours en fait maintenu cette colonie de peuplement et en 1972 même une circulaire Mesmer disait qu'il fallait faire venir des populations blanches pour éteindre toute velléité d'indépendance du peuple Kanak, pour éteindre définitivement cette revendication indépendantiste. C'est pour ça que le corps électoral a toujours été un enjeu très important et au cœur de toutes les négociations. Voilà, parce qu'étant minoritaires sur leur terre, les Kanaks savent que tout se joue à quelques voix près, quoi.
En cette période post-68, des étudiants Kanak inspirés par les idées décoloniales et le tiers-mondisme sonnent le réveil. Plusieurs organisations indépendantistes sont créées et des revendications d'ordre social, économique, politique émergent. S'en suivent 4 années de quasi-guerre civile qui s'achèvent par la tragédie de la grotte d'Ouvéa et les accords de Matignon-Oudinot. Le processus de décolonisation est ainsi lancé. Avec ces accords, le rôle de l'État est censé être celui d'un médiateur pour avancer vers la décolonisation, quelle que soit la forme que celle-ci doit prendre, indépendance ou pas. L'objectif, former une nouvelle communauté de Kanak et de Caldoches, les descendants des colons, pour décider ensemble et réduire les inégalités entre la population Kanak et les autres communautés. En 1998, l'accord de Nouméa prévoit en ce sens un transfert de compétences de l'État français aux institutions de la Kanaky, à l'exception de la défense, de la justice et de la monnaie. 3 référendums d'autodétermination sont prévus et le corps électoral est gelé, c'est-à-dire que ne pourront voter que les personnes déjà inscrites sur les listes électorales en 1998. Les 2 premiers ont lieu en 2018 et 2020.
En 2020, on a vu une progression des votes indépendantistes à 47%. La progression a été très forte, et notamment la jeunesse kanak s'est fortement mobilisée. Ce deuxième référendum, il ne manquait que 9000 voix pour accéder à l'indépendance.
Le troisième référendum est donc attendu avec de plus en plus de ferveur. Or, malgré la promesse d'Édouard Philippe qu'il n'aurait pas lieu avant août 2022, Macron décide de l'avancer à 2021. En pleine épidémie de Covid, la communauté kanak est profondément touchée.
Les indépendantistes ont demandé à repousser cette date de référendum et l'État n'a absolument pas voulu et a maintenu ce référendum à 2021. La société kanak procède à des rites importants au niveau du deuil. C'était pas possible de faire campagne pendant les deuils kanak qui prennent un certain temps, qui sont assez compliqués. Et les indépendantistes avaient prévenu que s'ils maintenaient cette date de référendum, ils ne participeraient pas. C'était pas possible, quoi. Donc, bien sûr, une participation faible, hein, de 40%, et une victoire de non à l'indépendance, pas 90%. C'était une mascarade de référendum pour les indépendantistes. Ils ne reconnaissent pas ce résultat, ils ne reconnaissent pas la légitimité de référendum, ils ne reconnaissent pas les résultats et ont progressivement suspendu toutes les discussions avec l'État.
Les loyalistes, partisans du maintien dans le territoire français, considèrent alors que l'idée d'indépendance est enterrée. Avec le gouvernement, ils préparent le dégel du corps électoral pour donner le droit de vote aux élections provinciales à toutes les personnes nées en Kanaky ou qui y vivent depuis plus de 10 ans. Cela correspond environ à 25 000 personnes, soit 14% du corps électoral. De quoi reprendre la majorité au parti indépendantiste kanak. Hasard du calendrier, le 15 décembre prochain sont censées se tenir les élections provinciales.
Ce projet de loi, il est voté au Sénat, à l'Assemblée nationale. Des élus qui ne comprennent pas forcément la situation locale ou qui ne sont pas au fait de tout ce qui se passe là-bas, c'est complètement inégalitaire et discriminatoire comme situation. Ce corps électoral, ça a toujours été un enjeu très important pour les indépendantistes. Un enjeu aussi au niveau des négociations depuis les années 84. Ça a toujours été un problème, une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. Et ça a été des batailles et des batailles pour que les Kanaks puissent instaurer ce gel du corps électoral parce qu'ils sont minoritaires sur leur propre terre. Comme c'est une colonie de peuplement, si tout le monde votait, le vote Kanak indépendantiste serait noyé et noyé de plus en plus. Pour eux, si ce projet doit passer, c'est le rêve d'indépendance qui s'envolait alors qu'au deuxième référendum, il leur manquait que 9000 voix. Donc, ils étaient à deux pas de gagner. On ne pouvait pas reculer comme ça en arrière. Ils étaient prêts à négocier sur les natifs. Hein. Ils étaient prêts à accepter que les natifs, ceux qui sont nés en Calédonie, puissent voter. Mais ils ne pouvaient pas accepter que les métropolitains nouvellement arrivés votent. Quoi.
Libérez vos esprits, décrispez vos visages. On combat un système, donc normal, on a la rage. La France nous met en cage, mais nous sommes un peuple fier. Elle veut nous faire taire, mais on reste contestataire.
Donc le projet de loi est passé d'abord au Sénat, puis à l'Assemblée nationale. Entre-temps, les indépendantistes s'étaient regroupés en CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, qui regroupe un certain nombre d'organisations, partis politiques, syndicats, associations, fortement mobilisés à partir du mois de novembre 2023 pour mobiliser et sensibiliser la population contre ce projet de loi, avec des manifestations monstres dans les rues de Nouméa, de 10 000, 20 000, 30 000, jusqu'à 40 000 personnes dans les rue de Nouméa et aussi en dehors de Nouméa et aussi à Lifou, dans les îles aussi, il y a eu des manifestations importantes avec la CCAT qui se déplaçait dans les tribus, dans les quartiers, qui faisait des réunions pour alerter sur ce projet de loi. Il y a eu déjà des grèves importantes, hein, notamment de l'USTKE. Voilà, c'est surtout des mobilisations, mais pacifiques, quoi. Pacifiques, mais en nombre, avec des drapeaux kanaki partout. C'était bon enfant, j'ai même pas vu de tag sur les murs pour dire, je me disais, par rapport aux manifestations en France, je trouvais ça très, très calme, c'était joyeux, la musique. Voilà, jamais on aurait imaginé que ça explose quelques jours après, même parce que les dernières manifestations, c'était... début mai, hein, même le 1er mai, il y avait un grand concert, des milliers de personnes. Et en face, on a commencé à voir les manifestations bleu, blanc, rouge partout dans les quartiers sud de Nouméa. Du coup, c'est drapeau contre drapeau, bloc contre bloc. Voilà, c'était très inquiétant, quoi. Moi, je pense que les premières tensions, elles sont venues de là avec une droite, avec les discours de la droite coloniale. On ne va pas se laisser faire. Si vous voulez le bordel, c'est nous qui allons foutre le bordel. C'est exactement les termes de la présidente de la province sud. Hein, c'est nous qui allons foutre le bordel. Donc, c'était très menaçant et arrogant. Et malgré ça, l'État est resté sourd à cette alerte et a maintenu ce vote. Et c'est le soir où c'est passé à l'Assemblée nationale que tout a explosé, quoi. vraiment avec l'insurrection qui a suivi.
Ici, c'est Kanaki, certains ont du mal à l'accepter. Ici, c'est pas la France, on n'arrêtera pas de résister. Du haut des crêtes jusqu'au fond des vallées, de la grande terre jusqu'aux îles loyautés. Alors libérez nos frères, libérez nos sœurs.
Les accords qui sont passés, ce sont des accords de décolonisation. Et on reviendra pas en arrière. On a cassé le pays. Vous avez vu cette mobilisation, c'est pour dire à l'État français que le peuple kanak, il est débouché lui et il reculera jamais devant l'État colonial.
Du coup, c'était ça les premières mobilisations. Puis après, il y a eu quelques barrages, mais des barrages filtrants. L'insurrection, elle est partie aussi de là. Il y a eu, ils commençaient à faire des petits barrages filtrants et des feux un peu à l'entrée des quartiers populaires. Hein. C'est toujours pour alerter, mais c'était pas. C'était pas violent, quoi. Il y avait pas de violence encore. Il y a eu les premiers tirs de flashball de la police sur des jeunes. D'abord, ils ont arraché des drapeaux, des voitures, et il y a les premiers tirs de flashball sur des jeunes à l'entrée des cités. Et c'est quand il y a eu les premiers tirs avec des premiers blessés que ça a explosé. Et ça, je pense que tout le monde a été dépassé par ce qui s'est passé la nuit du 13 mai où ça a explosé. Ça s'est répandu dans tous les quartiers populaires, ça a explosé de partout. Ça s'est propagé très, très vite. On sait pas trop comment et ça a été rapide et inattendu, quoi.
Le 13 mai, les deux fédérations syndicales USTKE et THT votent la grève, suivies à 99%. Le port ne laisse plus sortir que les denrées périssables et les médicaments. L'aéroport fonctionne à peine, les transports cessent. La Grande Terre est occupée partout par des actions de ralentissement. Mais dans l'après-midi, la police tire au flashball sur un barrage de jeunes dans le quartier Montravel. D'un coup, les barricades s'enflamment dans les quartiers populaires et les cortèges se forment. La police parle de 10 000 émeutiers et émeutières, dont la moitié à Nouméa, qui seraient en train de converger vers les quartiers riches. Des dizaines de commerces et d'usines sont incendiés. Un supermarché est forcé à la voiture bélier et pillé durant la nuit. La police déboule avec tout son arsenal. Grenades de désencerclement et flashballs résonnent dans la nuit. L'aéroport est aussitôt fermé, la route qui y mène étant parsemée de barricades. Une mutinerie éclate dans la prison du camp Est à Nouméa, prison particulièrement connue pour ses conditions insalubres et sa surpopulation, à 164% en septembre. L'État vient d'ailleurs d'être condamné pour les conditions d'enfermement délétères. Beaucoup de jeunes Kanaks connaissent d'ailleurs déjà l'intérieur de ces murs. Ce qu'ils dénoncent, outre la tentative d'élargir le corps électoral, ce sont les inégalités dignes d'un régime colonial. Aujourd'hui, le déséquilibre est criant. L'île de Grande Terre est divisée géographiquement, économiquement, socialement. Aux élections provinciales de 2019, les partis indépendantistes obtiennent la victoire sur l'ensemble de l'archipel, avec 91% des voix dans la province des îles, 80% des voix dans la province du Nord, mais seulement 20% dans la province Sud. Cette répartition correspond presque exactement à la répartition démographique. La population kanak représente encore 39% de la population, contre moins d'un quart pour la population européenne, mais seulement 5% des kanaks appartiennent à la catégorie professionnelle des cadres, dans un archipel dont l'économie est téléguidée par la France. Selon l'INSEE, qui a établi une moyenne entre 2015 et 2022, les prix des denrées alimentaires en Kanaky sont ainsi 78% plus élevés qu'en métropole.
Le PIB par habitant, il est comparable à celui de la grande majorité des régions françaises, donc il est assez élevé, mais des grosses écarts de revenus entre les métropolitains et les Kanaks, certaines catégories de Calédoniens aussi. Il y a des Calédoniens aussi blancs qui sont pauvres, enfin qui sont très modestes. 25% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Quand on arrive en Kanaky, c'est flagrant cette différence de revenus, quoi. C'est une situation coloniale parce que c'est aussi une économie de comptoir où tout est très cher, tout est importé. C'est 85% des produits qui sont importés avec des entreprises métropolitaines françaises, quoi, qui sont là-bas. Une mondialisation très forte et une droite coloniale très dure et qui ne veut pas lâcher son monopole, quoi. Voilà, tout le commerce se fait avec la France au lieu de commercer directement avec les États autour de la Calédonie, du Pacifique. Tout arrive de France, donc du coup, tout est très très cher. Pour les Kanaks, c'est de la survie, hein, c'est de la survie. Dans les quartiers de Nouméa et en périphérie, les Kanaks vivent dans des quartiers défavorisés, ils sont souvent marginalisés. Les logements sont très très chers. Les prix des loyers sont tirés par le haut parce qu'il y a une population qui a des salaires très élevés qui peut payer. Du coup, ça tire les prix des loyers vers le haut. Et un Kanak avec un salaire moyen ne peut pas se loger dans les quartiers sud de Nouméa, par exemple. Hein. Donc, il est obligé de vivre dans les quartiers nord, dans des cités. Ou bien, il y a à peu près 20 000 personnes qui vivent dans des. Là-bas, ils appellent ça des squats. C'est des cabanes faites de briques et de brocs en bord de mer, de bois, de tôle. Voilà, nous, on appellerait ça des bidonvilles, hein, ici. Hein. C'est quand même 20 000 personnes qui vivent dans ces habitations très précaires. Une jeunesse aussi qui est marginalisée, qui est sans emploi. Des inégalités très fortes au niveau de l'enseignement aussi, avec un échec scolaire très important. Et une loi sur l'emploi local qui est passée il y a une vingtaine d'années, qui, à compétence égale, privilégie l'emploi local, l'emploi calédonien, pas seulement des Kanaks, mais aussi des Calédoniens de souche, parce que les employeurs, pour la plupart métropolitains, hein, le patronat, 75% métropolitain, préférera toujours embaucher un métropolitain nouvellement arrivé. Et du coup, cette loi a été instaurée très difficilement, mais qui est aujourd'hui contournée par le patronat. Ça fait des années que... La marmite, ça a trop bouilli, quoi. Du coup, ça a explosé. C'est politique et social, quoi. Une révolte politique et sociale.
Comme le dit aussi l'anthropologue Benoît Trépied, spécialiste du processus de décolonisation en Nouvelle-Calédonie.
Nouméa est le lieu de cristallisation et de visibilisation des inégalités et des discriminations raciales. Dans la même commune, on a des Kanaks qui vivent avec des situations de grande pauvreté avec leur famille, et à quelques minutes en voiture à peine, le quartier des Baies, où les Européens passent de bar en boîte de nuit dans une ambiance qui n'a plus rien à voir. Les jeunes Kanaks sont confrontés à des situations de discrimination qui sautent au visage. Il n'y a pas de sas entre les grandes précarités et l'étalage des richesses. De là naît le sentiment d'une dépossession indissociablement sociale et coloniale.
Les inégalités sont aussi écologiques. Alors que la Kanakie est menacée par la montée des eaux et l'érosion du littoral, le mode de vie blanc, avec ses 4x4 et ses yachts, est ostentatoire et polluant. Tandis que le mode de vie traditionnel kanak est beaucoup plus sobre. C'est en son sein, par exemple, que se développent les expérimentations d'agroforesterie de Guillaume Vama. La crainte, c'est aussi d'être totalement silencieux si le corps électoral s'élargit, de ne même plus pouvoir espérer des politiques sociales au niveau provincial et de devoir subir des politiques néolibérales et la violence accrue de l'État. La province sud, tenue par les colons, a déjà décidé de ne plus financer les dispensaires de brousse et veut supprimer l'aide médicale gratuite et réduire les aides sociales.
Si on faisait entrer 25 000 personnes de plus au niveau du corps électoral, ils perdraient cette majorité. Et avec cette majorité, ils perdraient les projets de loi qu'ils sont en train de mettre en place au niveau de la fiscalité, au niveau du social.
Kanaki, j'entends tes pleurs. Kanaki, on est en deuil. Mais on est ensemble quand le pilou résonne face à l'ennemi. Oui, la terre tremble, la terre vit. On y est né, on y mourra, la terre voit. On veille sur elle, donc il n'y touche pas. Nous on se bat pour Kanaki, une nation inclusive. Pendant que des racistes crachent leur haine et rêvent de génocide. Ils martèlent toujours les mêmes conneries pour mieux manipuler. Attirent l'attention sur certaines choses pour en dissimuler. Ils traitent les miens des meutiers, mais ce sont des résistants, des militants. Révoltés car y'a plus le temps des présidents. C'est le son de la révolte pour plus de justice.
Dans la première semaine de l'insurrection, certaines zones échappent au contrôle de l'État, telles que les quartiers de Caméré, de Montravel ou encore la vallée du Tir. Des centaines de barrages sont érigés à Nouméa et sur les axes routiers stratégiques. Les grèves se poursuivent. Banques, concessionnaires, institutions, grandes distributions, les symboles du capitalisme et du colonialisme sont les cibles des insurgés. Le centre minier de Kouaou est attaqué et le convoyeur de nickel, un gigantesque tapis roulant qui charrie le minerai jusqu'à la mer sur 11 km, est incendié et mis hors d'état de nuire. Le nickel, l'or de Kanaki, filière ô combien précieuse pour l'État français qui s'affaire justement en 2024 à passer un pacte nickel pour pérenniser l'extraction et le raffinage du métal calédonien. Celui-ci a d'ailleurs suscité par le passé de fortes mobilisations Kanak qui y voient un renforcement de l'État dans l'archipel. Entre les grèves, les barrages, les pillages et la destruction de 90% des supermarchés, la pénurie s'invite en quelques semaines. Avec le temps, les barrages deviennent des foyers de rencontre, d'auto-organisation et de redistribution de denrées. La base de l'insurrection dépasse le cadre de contestation des partis ou les autorités coutumières et s'attache aussi à créer de la solidarité au quotidien. La France panique. Seule réponse, la répression. Dès le 14 mai, un couvre-feu est instauré à Nouméa. Tout rassemblement est interdit, ainsi que la vente d'alcool. Toutes les écoles, les collèges et les lycées ferment leurs portes. Et le 15 mai, l'état d'urgence est déclaré. On promet l'envoi de davantage de troupes sur le terrain, le déploiement de l'armée, et on interdit TikTok, qui serait le moyen privilégié de communication de la jeunesse révoltée. Les assignations à résidence pleuvent.
La réponse de l'État, elle est essentiellement judiciaire et répressive, quoi. Tout de suite, il y a eu l'état d'urgence, hein, qui suspendait les libertés fondamentales aussi de manifestation, de réunion, de déplacement, les premières assignations à résidence. Voilà, c'était ça aussi l'état d'urgence. Tout de suite, une répression forte. GIGN, militaire, gendarmerie, police, qui répriment surtout la jeunesse kanak, quoi. En tout, il y a eu presque 2500 arrestations. Hein. C'est énorme pour un petit pays qui fait 170 000 habitants. Hein. Puis la population kanak qui est à 39%, c'est essentiellement des kanaks ou des métis hein, qui ont été arrêtés. Puis on a affaire à une justice coloniale qui est jugement expéditif et très, très sévère hein, sur ordre de l'État. Hein. Les condamnations sont très, très sévères. Hein. Pour la CCAT, c'est association de malfaiteurs en vue d'organiser des crimes, en vue d'organiser des vols. C'est terrible, les accusations.
Darmanin qualifie notamment la cellule de coordination d'organisation mafieuse, violente, qui commet des pillages et des meurtres. Dans un communiqué, celle-ci appelle cependant au calme et accuse les députés d'avoir jeté de l'huile sur le feu.
Les exactions commises n'étaient pas nécessaires, mais elles sont l'expression des invisibles de la société qui subissent les inégalités de plein fouet et sont marginalisées au quotidien. Il reste une dernière chance pour que l'État entende notre cri du cœur et stoppe définitivement son plan au nom de la paix de notre pays. Nous ne reculerons jamais.
En outre, des groupes de colons s'organisent en milices pour défendre leur quartier. Armés et violents, certains n'hésitent pas à partir à la chasse aux kanaks. Et dans les deux premiers jours d'émeute, trois jeunes sont abattus.
Je crois que c'est dans la nuit du 13 mai, les premiers morts du côté des jeunes kanaks, quoi. Mais pas tués par la police, tués par des milices racistes, coloniales, hein, qui faisaient la chasse aux kanaks, quoi. Et ça fait vraiment peur et ça fait monter une pression dingue parmi la jeunesse kanak, quoi. En fait, ça a éclaté, mais ça couvait depuis longtemps, quoi. Les gens ont toujours été armés, mais là, on découvre en plus une haine, quoi. Une haine, un racisme, parce que les premiers morts, c'est des miliciens qui préparaient ça, parce que chez eux, ils ont découvert un arsenal de guerre, quoi. Au départ, ils laissaient faire, quoi. Les barrages avec des milices armées, au début, il y avait un laisser-faire, hein, parce qu'ils venaient là pour aider la police, quoi. Ils disaient que la police ne s'en sortait pas, on va les aider, quoi. Voilà, on va les aider. C'était ça. Hein. Puis donc, il y a eu un laisser-faire, en tout cas, au départ. Hein.
Un gendarme hors service tente de forcer un barrage à Koutio. Il tue un kanak de 48 ans. À Nouméa, c'est le jeune étudiant Djibril, 19 ans, qui est tué d'une balle dans le dos par des colons dans le quartier Tindou. Dans la zone industrielle de Duco, Chrétien et sa cousine Stéphanie, 36 et 17 ans, sont exécutés, là encore par un colon.
On traite de terroristes, mais c'est la France qui assassine. Et si c'est pas la France, eh ben ce sont ses fils. Ici, c'est Kanaki, terre de parole et de partage. Ici, c'est Kanaki, mais il y a des milices remplies de bâtards. Alors, on nous condamne, regarde, on nous enferme, mais il faut qu'on nous réponde. Ici, c'est à qui la terre? La France, elle veut la guerre, occupation militaire. On peut plaider.
En tout, près de 700 bâtiments d'entreprise partent en fumée. Il faut plus de 600 policiers pour débloquer la route de l'aéroport, qui ne rouvrira qu'au bout de 8 jours. Or, les barrages refleurissent dès le départ des forces de l'ordre. Chars à l'appui, elles font la chasse aux protestataires, tirent parfois à balles réelles et démontent les barricades les unes après les autres. Les morts violentes de militants pour l'indépendance se succèdent. Par la voix de son député de Nouvelle-Calédonie, la Macronie traite les protestataires de terroristes et appelle à ce que le processus aille à son terme. Macron se rend lui-même sur place et confirme, le dégel du corps électoral sera bien mis en place. Deux semaines plus tard, pourtant, il dissout l'Assemblée et suspend de fait le processus législatif. La nouvelle donne fait aller vers l'apaisement. Le nombre de barrages filtrants s'amenuise et les affrontements sont de moins en moins réguliers. Or, la France cherche à punir l'insurrection. Le 19 juin, lors d'une conférence de presse de la cellule de coordination, la police tend un piège. 7 leaders indépendantistes sont arrêtés. Décision est prise de les envoyer en France pour les incarcérer à 17 000 km de leur île. En tant que responsable de la CCAT, il et elle sont accusés de complicité de tentatives de meurtre, de vol en bande organisée avec armes ou encore participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. C'est le 22 juin, une nouvelle vague insurrectionnelle éclate alors. Les affrontements reprennent de plus belle autour du pont des Érudits, dans les quartiers de Koutio, de Magenta ou de Porte de Fer.
Déportation en France et transfert dans les prisons françaises. Certains ont été mis à l'isolement. Parmi les 11 arrestations, deux femmes qui sont mères de famille, enfants en bas âge, voilà, qui sont parties le soir même, sans affaires, sans rien, et mis à l'isolement. Enfin, c'était terrible, quoi, les conditions de détention, de transfert. Voilà, ça a été une surprise pour tout le monde. On était choqués même par cette décision. Suite à ça, il y a eu beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui ont été aussi transférés dans les prisons en France parce que la prison du camp Est, elle est surpeuplée. On a repéré à peu près déjà 70 personnes hein, qui sont dans les prisons en France. Le droit à la défense, il est menacé quand même. Les avocats sont en Calédonie, ils sont obligés de faire le déplacement. Le juge d'instruction est là-bas. Et puis même pour le droit des familles, pour les visites, ils sont complètement isolés. Le billet vaut presque 2 500 € pour faire venir des familles, c'est terrible quoi.
Ces déportations politiques sont des pratiques coloniales qui ont déjà été faites dans l'histoire, lance Dominique Fauchy, secrétaire général de l'Union calédonienne. Louise Chauchat, avocate de Guillaume Vama, explique dans Mediapart.
Les autorités raisonnent à l'européenne sans comprendre que dans le monde kanak, et plus largement océanien, toucher à l'un d'entre eux, c'est toucher à tous les autres. Le mouvement de contestation est multiple et il n'y a pas de leader affirmé. En raisonnant ainsi, de façon pyramidale, les autorités vont s'en prendre à des prétendues têtes, mais le corps continuera de bouger. Il y a de fortes chances que personne ne comprenne ce qui va arriver.
Depuis lors, petit à petit, les affrontements vont en diminuant. La situation tend à l'apaisement malgré les propos de Sonia Baques, présidente loyaliste de la province sud, qui le 14 juillet appelle à la séparation entre le nord et le sud de l'île sur un modèle proche de l'apartheid et via un argumentaire teinté de racisme colonial. Les manifestations se poursuivent alors que l'essentiel des forces d'occupation est encore présent. 29 escadrons de gendarmerie sillonnent encore la Grande Terre, soit 6000 hommes et femmes armés, escortés de chars. La police a procédé à près de 3000 arrestations, ce qui représente plus de 1% de la population totale de l'île. Elle continue de tuer. En juillet, en août, puis le 18 septembre, deux jeunes sont assassinés dans la tribu kanak de Saint-Louis. Habitants et habitantes sont empêchés de circuler en véhicule, contrôlés, fouillés à tout moment sur une portion de route de 4 km. Une pétition en ligne explique
« Depuis plusieurs semaines, nous vivons dans un état de siège, privés de nos droits les plus fondamentaux. Liberté de circulation, droit à la sécurité, droit aux soins sanitaires et simplement le droit de vivre libre et en paix. Cette situation minable mais surtout inhumaine nous remémore la période de l'indigénat, durant laquelle le peuple kanak a été parqué violemment dans des réserves, telles des animaux. »
Le couvre-feu, il est encore en vigueur hein, depuis le mois de mai. Hein. Et puis il y a des, par exemple, la tribu de Saint-Louis, elle est complètement bloquée pour rentrer et sortir de la tribu. Il y a des contrôles, tu peux rentrer qu'à pied, tu dois laisser les voitures à l'extérieur. C'est la seule route qui relie le nord au sud. Du coup, ils ont isolé complètement la tribu et il y a eu pas mal de morts, de tirs dans cette tribu. C'est le GIGN qui a tiré sur deux jeunes, mais alors, je sais pas, il paraît qu'ils ont tiré à 200 ou 300 mètres, qu'ils étaient visés. Il y a eu en tout 3 ou 4 morts rien que dans cette tribu-là. Hein.
On combat pour la vérité et quoi qu'il arrive, le respect, on est venu l'exiger. Pour aider au mieux mon peuple, moi je dis ce que je pense et tu sais, je le ferai jusqu'à l'indépendance. Mais libérez nos frères, libérez nos sœurs, libérez mon peuple et que la France se tire ailleurs. Quittez ce pays ici, vous rêvez d'apartheid. Ici, c'est Kanaki du nord au sud, de l'est à l'ouest. Libérez nos frères, libérez nos sœurs, libérez mon peuple et que la France se tire ailleurs. Libérez mon pays, on construit une nation, le voile est levé.
Heureusement qu'il y a une solidarité forte hein, qui s'exerce là-bas et ici aussi au niveau de comités de solidarité qui sont nés. Puis il y a des cagnottes qui tournent pour les prisonniers, pour les ceux de la CCAT, pour les autres détenus aussi qui sont, certains ont été transférés en short et en claquettes. Donc il y a des colis de vêtements qui sont envoyés aux détenus, il y a des sous quand c'est possible. Hein. Il y a des visites aussi qui sont faites quand on arrive à avoir des permis de visite. Voilà, il y a une forte solidarité qui s'exerce depuis le mois de mai en tout cas, des comités un peu dans toutes les villes avec des manifestations aussi devant les préfectures, devant les prisons.
Et vive la lutte du peuple kanak ! Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence.
Les manifestations pour la Palestine ont donné une visibilité à la lutte indépendantiste kanak aussi, parce que souvent les manifestations sont faites en même temps. Il y a souvent un cortège kanaki au milieu des manifestations pour la Palestine. Et du coup, sur les murs, on voit de plus en plus Free Palestine, Free Kanaki sur les murs de Paris et aussi dans le Pacifique. Quoi. Vanuatu, dans les îles en Australie aussi, il y a eu des mouvements, il y a eu des manifestations.
Libérez la Palestine, libérez la Kanaki, libérez la Kanaki, libérez la Kanaki.
Malgré tout ça, je trouve que le mouvement, il est pas à la hauteur quand même de la gravité, hein, de tout au niveau des médias, quoi, on en parle très peu, quoi. Les élections provinciales ont été repoussées à 2025. Elles devaient avoir lieu là avant décembre 2024. Si elles avaient eu lieu là en 2024, le corps électoral était gelé. Il y avait peut-être une chance que ça reste aux mains des indépendantistes. Du coup, on ne sait pas hein, ce que sera l'avenir. Aujourd'hui, la situation politique, tout est bloqué en ce moment, mais on sait que ça ne pourra pas continuer comme ça. De toute façon, il va falloir discuter. De toute façon, s'ils remettent ce projet de loi, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle explosion. On ne sait pas, hein. On ne peut pas savoir, c'est difficile. Mais je ne sais pas qu'ils prendraient le risque aujourd'hui de remettre ça sur le tapis. Enfin, pas dans l'immédiat en tout cas. Hein. Là-bas, ils savent qu'aujourd'hui, il faut s'occuper de cette jeunesse, quoi. Bah, ça, c'est une des priorités. Hein. On a un site Solidarité Kanaky où on met un peu les dates de mobilisation et puis aussi rejoindre les groupes Solidarité Kanaky qui se sont créés un peu partout dans les villes en France et les comités de soutien aux prisonniers aussi, puis d'interpeller aussi les parlementaires, députés, sénateurs pour maintenir cette pression en tout cas sur le retrait du projet de loi et on demande surtout la libération des prisonniers politiques.